Il est 9h, tout de suite c'est l'invité de la matinale. Nathalie Arthaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidate lutte ouvrière à la présidentielle, vous l'avez été. Édouard Philippe a dévoilé hier la réforme du Code du travail, une réforme qu'il a dit indispensable et urgente. C'est votre avis également ?
Pas du tout. Et même, je trouve complètement fou hein, que l'on mette toujours sur le Code du travail, sur les droits des travailleurs, la situation générale, ce chômage, alors qu'on voit hein, qu'il y a des dizaines, des centaines d'entreprises qui licencient, qui suppriment des emplois, qui restructurent, qui sont responsables de ce chômage de masse et du recul de la condition ouvrière. Mais au lieu de leur demander des comptes, on s'en prend encore à la situation de salariés, d'ouvriers, en disant que finalement ils ont trop de droits. Voilà. Mmh. Donc moi, je trouve ça scandaleux.
Ça ne peut pas du coup permettre de réduire le chômage ?
Non, je crois absolument pas d'ailleurs.
Aucun effet pour vous ?
Surtout, c'est exactement la même logique que la loi El Khomri. Hein. Donnons la possibilité légale au patronat de licencier comme il veut, quand il veut, avec la procédure qu'il souhaite, le plus vite possible d'ailleurs. Hein. Et je ne vois pas en quoi ça va augmenter le nombre d'emplois. Mmh. Hein. Donc non, c'est le contraire. Ça va effectivement aggraver le chômage.
On va écouter Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, qui s'est exprimé au sujet de la loi travail ce matin. Et je vous donne la parole juste après.
Ce qui me paraît essentiel, c'est de libérer le travail. C'est de faire en sorte que cet artisan dans les Alpes-de-Haute-Provence que je côtoie quand je suis dans ma circonscription ait envie d'embaucher et qu'il ne me dise plus « non, j'embauche pas, c'est trop compliqué ». Parce que c'est ça la réalité. J'ai envie qu'une entreprise qui a 49 salariés assume de franchir le seuil pour grandir, alors qu'aujourd'hui, soit il crée une seconde société, soit il ne grandit pas. Et donc, il nous faut aujourd'hui libérer le travail pour plus de travail. Mais ça ne veut pas dire moins de droits sociaux. C'est ça la difficulté. C'est qu'on a le sentiment que dès qu'on veut toucher au code du travail, on veut détruire le droit du travail. J'entendais hier un ancien candidat à la présidence de la République dire « on menace 18 millions de Français aujourd'hui ».
Vous parlez de qui ?
Ramenons Jean-Luc Mélenchon, ramenons les faits à leur réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le droit du travail ne protège plus assez et empêche l'accès au travail.
Alors, ça va permettre de licencier plus facilement, c'est ce que vous nous dites, mais pas de réembaucher aussi plus facilement ?
Mais écoutez, ils ont déjà tout ce qu'ils veulent pour embaucher, y compris quelques heures par jour. Il y a l'intérim, il y a les CDD, il y a les apprentis, il y a... Bon, toutes les possibilités sont là. En réalité, c'est un coût supplémentaire. Un coût supplémentaire pour précariser, pour individualiser, pour fragmenter, pour donner le sentiment à chacun des salariés, à chacun des chômeurs, que finalement, il est à son compte et qu'il doit se débrouiller seul et que, voilà, il s'agit... il doit s'en sortir, voilà, avec sa propre capacité individuelle. C'est une façon de... Voilà, d'individualiser et donc de contrecarrer ce qui a toujours fait la force, en fait, du monde du travail. C'est-à-dire son sentiment collectif, son sentiment de classe, de constituer un ensemble de femmes et d'hommes qui ont les mêmes droits et qui doivent se battre collectivement pour ces droits-là. Parce que vous savez, même y compris, il prend l'exemple des petites entreprises. Mais les salariés des petites entreprises, qui ont beaucoup moins la possibilité de se défendre, eh bien, ils pouvaient compter sur ce code du travail, sur cette protection qui s'appliquait à l'ensemble des salariés. Donc la réalité, c'est que quand ils parlent de libérer le travail, ils vont libérer l'exploitation. Mmh.
C'est aussi simple. C'est un coup d'État social, comme dit Jean-Luc Mélenchon, pour vous ?
En tout cas, c'est une nouvelle déclaration de guerre contre le monde du travail, ça c'est sûr, et sur différents points. Alors, jusqu'où vont-ils aller ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à inscrire dans le contrat de travail les motifs de licenciement ? On verra, mais toujours est-il qu'il faut absolument que l'ensemble du monde du travail, je pense aux salariés, je pense aux chômeurs, se lèvent et disent « ça suffit ». Voilà.
Ça veut dire quoi ? Que vous les incitez à descendre dans la rue et à crier finalement leur colère aujourd'hui ?
Moi, je pense que comme il y a eu une mobilisation pour la loi El Khomri, il va falloir remettre le couvert et qu'on soit encore plus nombreux, qu'on dise « ça suffit les sacrifices ». Ça suffit hein, de nous enlever encore des droits collectifs, ça suffit d'attaquer nos conditions de travail, mais aussi les allocations chômage. Il va se passer quoi sur les allocations chômage ? Il nous explique que voilà, des droits nouveaux vont être ouverts, mais qui va financer en réalité tout ça ? C'est des reculs sur les allocations chômage, sur les conditions aussi
de
départ
garantie,
à la retraite.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour vous de garantie en face pour justement les salariés, parce que l'assurance chômage pour tous, c'est ce qui est prévu aussi pour 2018.
Avec quel niveau d'allocation chômage. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un chômeur sur deux qui a Pôle emploi, qui n'est pas indemnisé. Et ça va s'aggraver. Donc, et on nous dit, oh, mais il y aura de la formation. Mais écoutez-moi, j'en rencontre tous les jours des gens qui me disent, mais j'ai fait une formation de 6 mois, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des efforts, je me suis remis en question. Et puis, j'ai fini ma formation, je ne trouve pas de boulot. Donc, tout ça, effectivement, ce sont...
Ce n'est pas les bonnes solutions
pour vous. Ce ne sont sûrement pas des contreparties, ce n'est pas vrai. Et il ne faut pas que les quelques protections qui pouvaient exister reculent encore. Moi, je pense qu'il faut demander des comptes aujourd'hui à ceux qui licencient, qui restructurent, à ces grands groupes qui... voilà, on parle de la CETA aujourd'hui, mais on parle de Vivart, on parle de MIM, on parle de GMS, qui... dépend de PSA, de Renault. Vous pouvez tous les prendre. Vous pouvez prendre les grandes banques. Ils suppriment des emplois. Vous pouvez prendre les grands hôtels qui appartiennent à des groupes qui sont richissimes, suppriment des emplois. Mmh. Donc c'est cette politique systématique qui consiste à augmenter la productivité de chaque salarié, à augmenter la charge, qui conduit effectivement à des suppressions d'emplois. Et c'est cela qu'il faut combattre.
Vous dites qu'il n'y a pas de contrepartie. Il y a la suppression des cotisations sociales salariales qui est prévue aussi en 2018. Ça a pardonné un petit peu de pouvoir d'achat quand même aux salariés ?
On sait très bien que ça va être immédiatement contrebalancé par l'augmentation de la CSG. Hein, et encore une fois, le problème, c'est qui paye, l'argent sort d'où hein, pour permettre des créations d'emplois,
de la poche des retraités
des augmentations de salaire. Il faudrait créer des millions d'emplois. D'où cet argent peut-il sortir? Eh bien, moi, je dis oui, il peut sortir des profits qui sont générés dans toutes ces grandes entreprises. Par qui? Par les salariés, d'ailleurs. En réalité, c'est notre dû. Donc, il faut non seulement se défendre, mais mettre en avant nos revendications, un emploi pour tous, un salaire, qu'on ne soit pas toujours suspendu au téléphone pour savoir si on va avoir droit à un jour de travail, une semaine de travail, ça suffit. On n'est pas, on a besoin, vous savez, on a un loyer, on a un crédit à payer, c'est tous les mois, ça tombe tous les mois, il faut remplir l'estomac des enfants, on ne va pas leur dire, ah ben là j'ai pas de boulot, tu ne manges pas aujourd'hui. Donc on a besoin de tout cela, donc il faut assurer ces conditions de vie et de travail dignes à chacun. Et ça c'est un combat pour que il n'y ait pas une minorité qui accapare tout le fruit du travail collectif et que cet argent, ces profits, se transforment en emploi pour que les jeunes aient leur place, pour que les seniors restent au travail, puissent aller jusqu'à la retraite. Voilà,
c'est je propose qu'on entende la ministre du Travail ce matin.
L'idée, c'est un, qu'on garde un socle dans la loi, les droits fondamentaux. Simplement, la loi, elle n'a pas à définir dans le détail qui se passe chaque matin dans une entreprise. Elle doit donner les principes et les garanties et les droits généraux. Ensuite, il y a les branches. Et nous pensons que les branches ont toujours un rôle à jouer parce qu'elles sont des régulateurs dans les secteurs d'activité. Mais nous pensons qu'on doit aller beaucoup plus loin sur les accords d'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est aux réalités de terrain que l'accord d'entreprise peut faire face. Des aspects d'organisation, des aspects de marché, des aspects de protection des salariés, d'aspiration des salariés. Les aspirations des salariés ne sont pas toutes les mêmes dans toutes les entreprises. Donc si on ne donne pas du pouvoir supplémentaire unilatéral en entreprise, on donne la possibilité, par accord d'entreprise, d'aller plus loin.
Est-ce qu'il n'y a pas du bon sens dans ce que vous venez d'entendre ?
Non, mais il s'agit toujours de donner plus de flexibilité au patron, de permettre au patron de s'adapter, de résoudre les difficultés du patron. Toujours, toujours, toujours. Les difficultés des salariés. Hein, mais y compris quand ils ont un enfant malade, y compris quand eux-mêmes sont malades, ne peuvent pas venir au boulot, je peux vous dire qu'il n'y a jamais d'adaptation dans ce sens-là. Et quand elle nous explique qu'il s'agit de prendre en compte les aspirations de tous, non, ce n'est pas vrai. Et cette démocratie sociale là, dont ils parlent en permanence, elle n'existe pas. Vous savez, liberté, égalité, fraternité, c'est écrit au fronton de tous nos bâtiments officiels, mais dès qu'on rentre dans l'entreprise... dans les quatre murs de l'entreprise. Ce n'est plus la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce n'est plus la démocratie. C'est un rapport de force. Et vous comprenez bien que quand vous êtes intérimaire... D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ils nous expliquent qu'ils veulent donner la parole aux salariés. Mais vous savez, dans des grandes entreprises... parfois, il y a un quart, un tiers de salariés qui sont précaires, qui ne sont pas comptabilisés dans l'effectif permanent de l'entreprise. Alors eux, ils n'existent pas, ils n'auront pas leur mot à dire. Ils devront se soumettre hein, finalement à la loi décidée entreprise par entreprise. Vous voyez, il y a toute une hypocrisie. Parce que la réalité, c'est que voilà, quand on est salarié, eh ben, on décide de rien. Et surtout quand on est salarié intérimaire, quand on est en CDD, on se plie à tout ce que le patron demande.
Alors on va écouter les syndicats qui vont négocier justement cette loi travail. On commence par Laurent Berger pour la CFDT.
Ce qui est sûr, c'est que les grandes paroles ne suffisent pas. Mais en même temps, je préfère que le Premier ministre déclare la guerre au chômage, et je pense que c'est nécessaire, plutôt qu'il veuille s'affronter avec les organisations syndicales. Nous, ce que je constate, c'est qu'hier, il y a une large place faite à la concertation dans le cadre des réformes qui sont envisagées. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permettra de faire valoir nos propositions pour qu'il y ait à la fois du dialogue social dans les entreprises, mais aussi des droits nouveaux pour les salariés.
Est-ce que vous comprenez cette relative bienveillance finalement des syndicats à l'égard de cette feuille de route sur la réforme de la loi travail ?
Pas du tout. Non, je ne la comprends pas. Et on entend à nouveau ce qu'on avait entendu au moment de la loi El Khomri. On n'a pas tout essayé contre le chômage. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, réduire les droits des travailleurs. On n'a pas tout essayé contre le chômage, c'est vrai. On n'a pas essayé d'interdire les licenciements dans les groupes qui font des bénéfices et qui licencient. On n'a pas essayé de répartir le travail. Vous savez, il y a eu en 2016 la distribution de 6 milliards d'euros aux actionnaires chez Sanofi. Et ben rien que ces 6 milliards d'euros, s'ils avaient été mis pour créer des emplois, cela aurait permis de doubler l'effectif chez Sanofi. Voilà la solution à ce chômage de masse. Voilà la solution pour élever le niveau de vie et pour faire progresser l'ensemble de la société.
Ce que disent les syndicats finalement aujourd'hui, c'est de donner un satisfecit à la méthode et au calendrier. Ça, vous êtes d'accord pour accorder au gouvernement peut-être un bon point sur ce point-là ?
Non, moi je ne comprends pas ça parce qu'il ne dit jamais ce qu'il y a à négocier parce qu'il n'y a rien à négocier. C'est ça la réalité. Il n'y a rien à négocier. Tout va être revu effectivement pour faire reculer les droits généraux des salariés. Et vous savez, ces quelques protections qui étaient, encore une fois, attribuées à l'ensemble des salariés, elles ont été obtenues au travers des luttes, d'un rapport social, de mobilisation et de grandes grèves. Et c'est finalement ces avancées-là qui bénéficient à tous, qui vont être démolies petit à petit. Et tout le problème de fond, c'est que un salarié face à son patron ne pèse rien. Tout seul, il n'est rien. La force du monde du travail, elle est collective. Elle est collective et elle était effectivement incarnée par ces droits collectifs qu'ils veulent démolir. Donc il faut absolument s'élever contre cela et à nouveau dire non, en réalité, on a des droits communs parce qu'ils nous disent oui, il faut s'adapter à chaque aspiration de salarié. Mais enfin, quand même, il y a des aspirations qui sont communes à tous les salariés. C'est celle de vivre dignement de son travail, de pouvoir, sur ses vieux jours, avoir une retraite, de pouvoir accéder à un logement, d'avoir un salaire correct. Ce sont des aspirations communes. Et ces aspirations communes, eh bien, elles peuvent déboucher sur des avancées lorsqu'on se bat ensemble. Donc nous, Lutte ouvrière, c'est à cela que nous appelons une opposition ouvrière, l'opposition des travailleurs face à toutes ces attaques.
Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, et les sondages, et les premiers résultats, en tout cas le premier tour pour les circonscriptions des Français de l'étranger, donnent une très large avance à la République en marche, au mouvement d'Emmanuel Macron qui justement défend cette loi travail.
Moi, j'entends, certains disent il faut attendre de voir, il faut lui laisser sa chance, etc. Donc c'est l'illusion du renouvellement. Vous savez, cette illusion, elle est quand même distillée au quotidien, du matin jusqu'au soir, dans les médias, y compris les syndicats. Regardez effectivement, il faut attendre de voir, on ne sait pas, etc. Mais moi je le dis, il ne peut pas y avoir de doute possible. Ce qui va se passer, ce sont de nouvelles attaques, tout azimut, concernant les retraites, le chômage, les droits au travail.
On a l'impression que du coup le pays est prêt pour cette réforme s'il donne son blanc-seing à La République en marche.
Ça, je ne crois sûrement pas, parce que vous savez d'abord que Emmanuel Macron, au premier tour de la présidentielle, il a réalisé 24% des suffrages, 18% des inscrits. Et au deuxième tour contre Marine Le Pen, il y a eu 16 millions.
Vous pensez pas qu'il y aura un raz-de-marée
qui n'ont pas voulu voter
le 18
pour Macron.
Juin. Vous ne vous attendez pas à un raz-de-marée le 18 juin pour Emmanuel Macron.
C'est possible que l'électorat d'Emmanuel Macron se mobilise et effectivement massivement, que d'autres le soutiennent, que par ailleurs il gagne effectivement une majorité. C'est possible. Mais pour moi, ça, je garderai bien en tête que finalement Emmanuel Macron a été élu au premier tour avec 24% des voix, voilà, et qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes dans ce pays qui savent à quoi s'attendre, qu'en réalité, voilà, il a été sélectionné. Vous savez, il a fait ses preuves, Emmanuel Macron, c'est pas un perdreau de l'année. Mmh. Il a fait ses preuves auprès de la bourgeoisie. Il a des états de service qui sont bien fournis. On sait dans quel sens il veut aller. Effectivement, il veut libérer l'exploitation, il le dit. Hein, il veut précariser, il veut individualiser. Eh bien, ça, c'est contraire aux intérêts des travailleurs. Alors, nous, Lutte Ouvrière, on continue notre combat. Et on le dit, y compris
alors,
dans ces législatives.
Et après,
voilà, dans ces législatives.
Quels sont vos espoirs, justement, pour ces législatives?
Eh bien, il faut à nouveau qu'il y ait des centaines de milliers d'électeurs qui votent pour ce courant, pour dire il y a des femmes et des hommes qui savent où sont leurs intérêts collectifs, qui savent les combats qui sont à mener et qui affirment, y compris, c'est derrière.
Et vous mènerez encore ce combat à la présidentielle?
Alors, là, c'est les législatives, c'est dimanche. Et vous savez, qui affirme aussi, ce que j'étais la seule quand même à dire, c'est qu'au-delà de ce personnel politique, il y a le pouvoir, justement, du grand patronat. Et ce pouvoir du grand patronat, des grands groupes industriels et financiers, pour le contrebalancer, il n'y a qu'une force, c'est la force sociale des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne dis pas que l'opposition, elle sera à l'Assemblée. L'opposition, elle sera dans les rues. C'est l'opposition que les travailleurs sont en mesure d'imposer.
Ce matin, Nathalie Arthaud, merci. Vous avez été candidate Lutte Ouvrière à la présidentielle et vous êtes candidate aujourd'hui en Seine-Saint-Denis pour les législatives. On va découvrir à l'antenne tous les autres candidats de cette sixième circonscription de Seine-Saint-Denis. Merci à vous d'avoir été notre invité dans Politique Matin et très bonne journée à vous.